Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pendant une heure pour évoquer des livres, des ouvrages avec leurs auteurs.
Je crois qu'on a eu un petit problème de micro. Voilà, c'est réglé, Jérôme, merci. Je disais donc, ravie de vous retrouver pour cette émission Entre vous et moi, pour parler littérature avec les auteurs. Dans un instant, je recevrai Gérald Tenenbaum pour son dernier livre paru aux éditions Cohen et Cohen, intitulé Par la racine. Ensuite, nous découvrirons la chronique de Nicole Skinazy-Teboul consacrée au mot racine, évidemment. Une petite pause musicale avec Calogero. Et puis, dans la deuxième partie, je recevrai Nathalie Oana pour son joli livre « Réveiller ma mère » paru chez Frison Roche, belle lettre, un très bel ouvrage, un hommage à la figure maternelle. Mais tout de suite, bonjour Gérald Tenenbaum.
Bonjour Patricia.
Et bienvenue sur Radio Judaïque à Lyon, où nous avons évoqué ensemble presque tous vos livres depuis 2008, l'ordre des jours, hein, c'est cela.
Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Ouais.
Merci de votre fidélité à notre antenne.
Merci
pour,
à vous.
Pour mémoire, je rappellerai à nos auditeurs, Gérald Tenenbaum, que vous êtes professeur à l'Université de Lorraine à Nancy. Vous êtes chercheur en mathématiques, mathématiques pures, hein, j'ai vu, mais qu'est-ce que
fait.
Ça signifie
théorie des nombres, oui.
Ouais. Expliquez-nous un petit peu ce que ça signifie les mathématiques pures.
Les mathématiques pures, disons qu'elles ne sont pas directement motivées par les applications, mais il se trouve qu'elles ont tout de même des applications, parce que la manière dont un cerveau humain fonctionne, il n'y a qu'une seule manière.
Ouais.
Et disons, ce sont des questions qu'on se pose à propos, bon, dans mon cas, c'est à propos des nombres entiers, c'est 1, 2, 3, 4 et la suite, et il y a des tas de questions qui sont très simples à formuler, mais qui sont extrêmement difficiles à résoudre et qui occupent l'humanité depuis des millénaires.
D'accord. Alors, en général, on est doué pour les mathématiques ou on est doué pour les lettres. Vous parvenez à rassembler les deux et parallèlement à votre métier, vous êtes devenu un écrivain à part entière. Vos livres ont reçu un bel accueil, tant par la critique que par vos lecteurs, qui apprécient grandement votre écriture et apprécient de retrouver certains de vos personnages qui se promènent de roman en roman. Et dans celui-ci, Par la racine, donc, paru chez Cohen et Cohen. Bien écoutez, on retrouve des personnages un peu récurrents. Est-ce qu'il faut voir dans cette démarche, Gérald Tenenbaum, l'impossibilité pour vous de quitter vos personnages ?
Et c'est vrai que certains personnages, je reste attaché à certains personnages. Et puis, là, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça, mais il y a effectivement deux personnages dans ce livre qui ont le même nom et qui d'une certaine manière ressemblent à deux personnages d'un autre livre.
Exactement.
Mais bon, c'est la liberté de l'écriture.
Absolument, absolument. Une liberté que dont vous usez avec beaucoup de talent. Alors l'histoire de Par la racine, Samuel Villard, votre héros, vient de perdre son père Barour. On prononce Barour, hein ?
Barour ou Barouk, comme on veut.
Barour qui vivait dans un EHPAD. On lui remet donc à Samuel, à son fils, une boîte en carton qui contient des papiers, une montre automatique, des photos et un numéro de téléphone, celui de Luce Alperne, qui est bibliothécaire à l'Institut Rachi de Troyes. Et c'est donc la rencontre de Samuel et Luce que vous nous racontez en 17 chapitres assez courts. Et vous nous montrez un petit peu que Luce va entrer dans la vie de Samuel un peu par effraction, il le dit lui-même d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui, il se décide à appeler. Il n'a aucune idée au départ que le destin de Luce et sa vie et sa famille sont liés à la sienne.
Oui.
Et puis, comme elle lui commande une biographie imaginaire pour laquelle il va falloir faire un voyage et faire une enquête. Et au fur et à mesure de cette enquête, eh bien, il va s'apercevoir que les deux destins convergent. Et il va découvrir, tout en découvrant des éléments de la vie de Luce, il va découvrir des éléments de la sienne.
Sur sa propre vie, parce qu'on a oublié, j'ai oublié de préciser que le métier de Samuel est un petit peu particulier. Il rédige des biographies à la demande en mêlant le vrai et le faux.
Oui, tout à fait. Il tisse le vrai et le faux. Alors, son père était, était un commerçant qui vendait des vêtements et il avait peu d'estime pour ce qu'il appelait un rapiéçage de vie.
Exactement.
Et Samuel, lui, quand il pense à son métier, il en parle avec les termes du vêtement, de la
confection.
Ouais. Il parle de tissage, il parle d'essayage, d'ourlet, de reprise. Il parle de raccommodage.
Exactement.
Et il parle évidemment de trame, ouais. Puisque c'est un terme qui s'applique immédiatement à la fois à l'écriture et aux vêtements et aux tissus.
Oui, absolument.
Donc, oui.
Alors le métier de Samuel ne plaisait pas forcément à son père, à Barour. Ça lui déplaisait d'ailleurs assez fortement. Et pourtant, Samuel va découvrir que Barour en parlait très souvent. Page 101, on apprend qu'il gardait les coupures de journaux à propos de ceux des clients qui avaient l'honneur de la presse, rapport à leur parcours. Et ça n'était pas si rare. Donc, au cours de son voyage, un voyage un peu initiatique qu'il va entreprendre avec Luce, on en reparlera dans un instant, Samuel va découvrir que finalement, son père n'était pas forcément, ne voyait pas son métier d'un mauvais œil.
Oui, il y a une sorte d'incompréhension, c'est-à-dire que quand son père, quand Barour parlait à Samuel, il montrait une sorte de critique, un peu de mépris pour son travail, mais quand il en parlait à d'autres personnes, eh bien en fait, il y avait une sorte de fierté. Et petit à petit, Samuel va découvrir des choses sur son père, et on peut dire que tout ce parcours qui dure un an, le temps du deuil, le conduit à une sorte de réhabilitation de la figure paternelle.
Exactement. Alors je le disais, Gérald Tenenbaum, un véritable voyage initiatique pour Samuel et Luce, qui va les emmener un peu partout en France, de Dijon en passant par Lyon, Lyon-Villeurbanne, vous citez Villeurbanne d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre livre, Grenoble, Marseille, puis l'Italie, et ils vont ensuite embarquer à bord du cargo de Jacques, le frère de Samuel, direction Israël et le kibbutz d'Ein Horesh, où Lina, la mère de Luce, a séjourné en 1982. C'est en quelque sorte un voyage initiatique qu'ils vont entreprendre tous les deux, et ils vont aller tous les deux à la découverte de leurs propres racines, pour employer le terme du titre de votre livre.
Oui, tout à fait. Oui. Et en fait, ils vont s'apercevoir. Donc au départ, la motivation, c'est effectivement le séjour de la mère de Luce dans ce kibbutz. Mais quand ils vont arriver dans le kibbutz, eh bien, Samuel va s'apercevoir que son père aussi a séjourné dans ce kibbutz. Et puis ils vont découvrir le personnage, alors bon, qui a vécu dans ce kibbutz quasiment toute sa vie. Abba Kovner, le grand poète israélien, yiddish, qui a laissé des œuvres mémorables, qui a témoigné au procès Eichmann et qui avait fait un complot contre les villes allemandes après la guerre, où il voulait empoisonner l'eau des conduites d'eau des grandes villes allemandes. Et puis il avait aussi dirigé le mouvement Bricha, la fuite, qui permettait aux personnes déplacées après la guerre de rejoindre Israël.
Exactement. Alors pour revenir un instant sur la commande de Luce, la commande d'une biographie un peu romancée, pourrait-on dire. Vous écrivez, page 90, il faut parler de la commande, puisque commande il y a. Sans rien savoir cependant, Samuel sait déjà que se joue ici bien plus qu'une commande de plus. Et bien plus qu'une commande de plus pour sa cliente, entre guillemets, mais également pour lui. C'est ce qu'on disait à l'instant, il y a beaucoup de choses qui se jouent là.
C'est l'injonction paternelle qui l'a conduit là, et c'est à partir du moment où il compose le numéro de téléphone qui est laissé par son père, et bien sa vie ne sera plus jamais la même.
Ouais. Mais il ne le regrettera pas, enfin on ne va pas dévoiler bien sûr, mais il ne regrettera pas cette démarche entreprise. Alors la volonté de Barouk, le père de Samuel, est donc à son décès, ni cérémonie, ni tombe, ni fleurs. Enfin, il ne voulait absolument rien. Et il a fait le choix de l'incinération. C'est assez terrible, oui. Ça.
C'est terrible, c'est une épreuve épouvantable pour Samuel. En plus, c'est une transgression par rapport à la loi juive.
Exactement.
Et le livre débute sur une incinération avec une dispersion des cendres, ouais. Et il finit curieusement par un enterrement.
Ouais. Ouais, on voit le chemin parcouru par Samuel et par Luce. Alors Luce, qui est la fille de Lina Denner, née de père inconnu, la question se pose, Baruch pouvait-il être son père ?
Oui, alors c'est une question qui reste en suspens, ouais. Pendant une bonne partie du, oui. Livre. Et dans ce cas-là, évidemment, ils sont frères et sœurs, donc ça pose aussi d'autres,
exactement,
problèmes.
Exactement. On ne dévoilera pas, évidemment, parce qu'il faut prendre le plaisir, avoir le plaisir de tenir votre livre en main pour découvrir cette histoire formidable que vous avez inventée de toutes pièces, j'imagine, chez Gérald Tenenbaum. C'est le travail du romancier, là.
Oui, c'est le travail du romancier. J'ai fait un petit peu le travail que fait Samuel en tissant le vrai pour le vrai pour le coudre à l'imaginaire. Ouais. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont réels dans ce livre et la documentation, bien sûr. Il y a le thème du Dibouk, il y a le thème,
voilà,
du Dibouk,
j'allais y venir.
Oui,
ouais.
On parle de la pièce d'Anski et du film, ouais. Du fameux film Le Dibouk, ouais. De Michal Wachinski, qui est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre du cinéma yiddish.
Oui, absolument. J'allais y venir justement, ces deux notions de Dibouk et d'Ibur. Alors moi, je vous avoue que je connaissais le Dibouk, mais pas l'Ibur. Expliquez-nous un petit peu la différence entre ces deux notions.
Alors, le Dibouk, donc ça vient d'un mot hébreu qui veut dire attachement,
ouais.
Et donc quant à la suite d'une mauvaise action, d'une erreur, eh bien l'âme d'un disparu vient s'attacher à un corps de vivant et ne peut plus en être détaché. Donc le Dibouk est une figure maléfique et négative. Et il existe un double dans la tradition, dans la mythologie, une sorte de double de Libur, du Dibouk, qui est Libur, et ça vient d'un mot hébreu qui veut dire gestation, et donc Libur est une imprégnation, c'est une imprégnation d'un être qui est temporaire, et qui est positive, et qui permet à une âme de terminer une action qu'elle n'a pas pu accomplir de son vivant.
Exactement.
Donc,
oui. Oui, oui, je vous en prie.
Et donc, dans le cas du Dibouk, en particulier de la pièce d'Anski, la faute, c'est une promesse qui a été faite sur quelque chose qui n'existait pas encore.
Oui.
Et cette promesse est terrible. Et donc, ça induit un jugement entre les morts et les vivants. Et c'est d'ailleurs un des thèmes tout à fait étonnant de cette pièce, parce que on met les morts et les vivants sur un pied d'égalité.
Oui.
Dans le cas de Libur, il y a aussi une promesse qui a été faite sur quelque chose qui n'existait pas encore, mais c'est une promesse que Baruch s'est faite à lui-même.
Oui.
C'est une promesse qui est restée totalement informulée. Et donc, c'est ce qui permet de passer du Dibouk à Libur.
À Libur. Vous expliquez, donc page 103, Libur est une forme de possession temporaire. La personne qui en est habitée peut même en avoir conscience, c'est plus propre de cette façon. L'important, c'est que contrairement à celle du Dibouk, l'imprégnation de Libur est toujours positive. Et c'est cela qu'il faut retenir, je crois, Gérald Tenenbaum.
Oui, c'est vrai qu'on est habitué, dans le rapport entre les vivants et les morts, on est habitué à ce que les vivants pensent aux morts et font revivre les morts en y pensant.
Oui.
Et dans le cas de Libur, eh bien c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est le mort qui fait penser le vivant,
oui.
et qu'il l'habite et qui le conduit doucement, de manière affectueuse, qui le conduit là où il doit aller.
Oui, absolument. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, ce livre, vous le dédiez à vous tous qui persistez en nous. On voit bien le lien qui subsiste au-delà du temps entre les morts et les vivants.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que dans la tradition juive, il y a un rapport particulier entre les morts et les vivants, oui. Bon, dans d'autres cultures aussi, mais certainement que dans la tradition juive et dans la judéité, même au-delà même du judaïsme, il y a ce rapport de proximité et je dirais d'égalité qu'il y a entre les vivants et les morts, qui m'a toujours intéressé. Oui. Là, j'ai eu envie de l'explorer du côté de la mythologie.
Ouais, ouais. Et j'ai retenu également, page 122, un passage qui m'a beaucoup touchée. Vous parlez des enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont donc orphelins, mais il n'existe pas de mots pour qualifier les parents qui ont perdu un enfant. Et vous expliquez qu'il y a quelque temps, le mot « parent » a été proposé, mais visiblement, il n'a pas été retenu. Alors, en français, hein, en revanche, oui. En hébreu et en arabe, le mot existe. En hébreu, c'est le mot « shakoul ». J'ai noté une phrase de David, enfin une formule de David Grossman, l'écrivain israélien David Grossman,
qui a perdu son fils,
absolument, oui. En Israël, et qui parle d'un renversement de l'ordre du monde. C'est ainsi qu'on peut qualifier ce cataclysme qui arrive dans la vie d'un parent.
Oui, c'est vrai que dans ce livre, beaucoup de choses sont à l'envers. Comme ces plantes qui poussent justement par la racine.
Par la racine.
Pousser vers le haut, elles poussent vers le bas. Et cette manière d'aller de l'autre côté nous montre aussi où est la lumière.
Ouais, on voit toute la richesse de votre écriture, de votre pensée, de votre écriture dans ces quelques mots que vous venez de prononcer. Justement, le titre « Par la racine », Gérald Tenenbaum, il s'est imposé sans doute à vous, puisque vous évoquez ces plantes qui poussent par la racine. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est par la racine, le fait qu'on ait un titre qui débute par ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avant. Il y a quelque chose avant qui n'est pas dit et qui nous sollicite et qui va nous mettre en mouvement. Ouais. Et puis le mot racine est aussi un mot qui est à la fois dans le champ mathématique, puisque une racine en mathématiques c'est une solution, ouais. Et qui est en même temps dans le champ familial. Retrouver ses racines, et ça aussi c'est une forme de solution.
Exactement, et retrouver ses racines au sein de la famille, c'est un thème très important qui parcourt tout votre livre, Gérald Tenenbaum. Aller à la recherche de ses racines familiales, culturelles, religieuses également, c'est véritablement un livre sur la transmission et sur la famille finalement, tout simplement.
Oui, c'est un livre sur la famille avec cette fratrie entre Samuel, son frère, sa sœur, qui forme un cercle, mais un cercle ouvert, un cercle qui est capable d'accueillir.
Exactement.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une communauté peut être fermée, on peut arriver au communautarisme, ou on peut être au contraire accueillir et rester ouvert. Et moi, je plaide pour l'ouverture, ce qui ne fait qu'enrichir ce cercle qui peut être familial ou culturel.
Bien sûr, oui. La richesse d'une communauté, c'est de rester ouverte aux autres, finalement, pour ne pas risquer de tomber dans le communautarisme, précisément.
Exactement, exactement. J'ai dirigé une association culturelle juive pendant plus de 20 ans et je me suis toujours attaché à maintenir cette ouverture et une forme de générosité.
Oui, absolument. Alors dans ce livre, en filigrane, la musique, parce que Baruch était un grand amateur de musique classique et la musique, on la devine et on l'entend tout au long de la lecture de ce beau livre, Gérald Tenenbaum, puisqu'on devine le goût de Baruch pour la musique classique. On passe du boléro à l'adagio d'Albinoni, de Debussy à Mozart, de Bach à Handel, Mendelssohn, Tchaïkovski. Véritablement une bande-son que vous avez imaginée tout au long de cet ouvrage.
Oui, tout à fait. Le livre est rythmé par ces évocations musicales qui sont comme une poursuite de la conversation de Samuel avec Baruch, avec son père qui a disparu. Et au fur et à mesure du livre, eh bien cette conversation, alors qu'au départ, ce sont les opinions assez tranchées de Baruch dont Samuel se fait l'écho. Et puis petit à petit, eh bien il commence à avoir ses propres ses propres opinions et le rapport s'équilibre entre, ouais, entre Samuel et Barour à propos de la musique dont Barour était, le détenteur du savoir.
Ouais, absolument. Alors, on l'a dit, un roman sur la filiation, sur la famille, dans une écriture sensible et poétique dont vous avez le secret, cher Gérald Tenenbaum. Nos auditeurs l'auront compris, je recommande fortement la lecture de ce livre. Vous avez mis en exergue deux phrases que je voudrais citer, en exergue de votre livre. La première de Simone Veil, la philosophe. « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. » Et puis une phrase de Shakespeare, « Nous sommes de l'étoffe dont les songes sont faits. » Je trouve que ces deux phrases résument parfaitement la démarche que vous avez entreprise avec l'écriture de ce beau roman intitulé « Par la racine » et publié par les éditions Cohen et Cohen. Ça a été un plaisir de vous lire, cher Gérald, et de vous recevoir aujourd'hui pour parler et pour présenter ce beau livre. Un mot sur la couverture aussi, qui est très belle.
Oui, la couverture représente un arbre, oui, qui a des racines, oui, mais qui a aussi des branches, et ces branches se dirigent vers le ciel et tentent d'une certaine manière d'agripper, oui, un nuage rouge qui est au-dessus de l'arbre et qui représente comme une sorte d'aura de supplément d'âme, oui, ça symbolise à mon avis beaucoup de l'existence humaine.
Oui, absolument. Une très belle couverture présentée par les éditions Cohen et Cohen, une maison d'édition à laquelle vous êtes fidèle depuis quelques années, Gérald.
Voilà, c'est mon deuxième livre, ouais, et j'espère que ce n'est pas le dernier.
Ah bah, je l'espère aussi.
C'est une belle maison ouais, qui m'a accueilli.
Oui. Ouais. Et puis vous avez encore beaucoup de choses à nous raconter, donc vraiment j'espère qu'il y aura encore beaucoup de livres. Alors comme vous êtes un habitué de cette émission, cher Gérald Tenenbaum, vous le savez, maintenant c'est le tour de la parole est donnée à Nicole Skinazi Teboul, qui nous propose chaque semaine une chronique sur un mot. Vous avez encore quelques instants pour l'écouter,
oui,
cette chronique ? Ah bah super. Donc on a Nicole en ligne, je pense. Bonjour Nicole.
Bonjour Patricia.
Vous êtes bien là. Comment ça va Nicole ?
Oui, ça va bien, je vous remercie.
Alors on va écouter votre chronique. Gérald Tenenbaum est resté en ligne pour la découvrir avec nous.
Très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du mot racine. C'est un nom féminin qui vient du latin radicina, qui signifie racine, dérivée de radix. En botanique, la racine est la partie inférieure, souvent souterraine, d'une plante vasculaire qui permet la fixation du végétal dans le sol, tout en assurant son alimentation en eau et en sels minéraux. Racine. Se nourrir de racines grecques antiques, d'une racine principale ou d'une racine ligneuse, d'une racine fasciculée ou de la coiffe d'une racine. Prendre racine, de racines hébraïques nostalgiques, d'une racine secondaire ou d'une racine tubéreuse, d'une racine traçante ou du collet d'une racine. Jeter des racines carrées mathématiques, des racines crampons en bois de racine, des racines adventives ou d'aériennes racines. Être à la racine, de racines cubiques atypiques, de racines d'arbres ou de racines de fleurs, de racines des chiffres et des mots. Infini des racines. Et il y a le livre de Gérald Tenenbaum, « Par la racine ». Samuel Villard, journaliste et auteur de biographies améliorées ou mensongères, vient de perdre son père, Baruch, qui vivait dans un EHPAD. À l'accueil de l'EHPAD, un carton rempli de souvenirs disparates l'attend. Il va y trouver un morceau de papier sur lequel est inscrit un numéro de téléphone mystérieux. C'est celui de Luce Alperne, la bibliothécaire du Centre Rachi de Troyes. Celle-ci va lui demander de lui écrire sa biographie. Le travail que va alors engager Samuel Villard sur la vie de cette femme va se révéler pour lui un retour lent, complexe et enchevêtré vers ses propres racines. Si l'on revient au titre, « Par la racine » rappelle l'expression « manger les pissenlits par la racine », considérée comme l'apanage malheureux des morts sous la terre. Par la racine est aussi une façon d'empoigner la mémoire par la racine et de saisir l'essentiel d'une vie depuis ses racines. C'est la puissante réussite à laquelle est parvenu Gérald Tenenbaum grâce à une écriture poétique scandée par des pièces de musique classique qui jalonnent ce texte érudit et le rendent profondément attachant. Comme un lien déployé entre la terre et les cieux qui réenchante et renforce l'unité et l'harmonie du monde.
imprégner la mémoire par la racine et saisir l'essentiel d'une vie depuis ses racines. Je crois que Nicole a parfaitement résumé votre livre, Gérald.
C'est magnifique. C'est vraiment, je suis admiratif. Ouais. Vraiment, ce compte-rendu et cette exégèse du mot racine, ouais. C'est parfait. Hein,
voilà. C'est magnifique. Hein, mais chaque semaine, les auteurs découvrent la chronique de Nicole avec nous et c'est à chaque fois un émerveillement. Merci infiniment, ma chère Nicole.
Un enchantement. Ouais. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Bientôt.
Je l'espère aussi. Merci beaucoup, Gérald Tenenbaum. Je rappelle à nos auditeurs le titre de ce dernier roman paru chez Cohen et Cohen, intitulé Par la racine. Donc, une démarche et un voyage initiatique, comme on l'a évoqué il y a un instant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, cher Gérald, et à bientôt.
Merci à vous, Patricia, et à bientôt.
À bientôt. Et merci, ma chère Nicole. On se dit à la semaine prochaine.
Merci, Patricia. À bientôt.
À bientôt.
Gérald. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir, Nicole. Une petite pause musicale.